Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. On va parler d'images aujourd'hui dans VMDN, de photographie et de bande dessinée avec nos deux invités, le dessinateur de BD Tristan Filler et le scénariste Jean-David Morvan qui nous raconte l'incroyable parcours du grand photoreporter Stanley Green. Ils sont avec nous dans un instant. Mais on va parler aussi d'images sur grand écran et c'est tout de suite avec vous, Fanny Blechner. Bonjour Fanny.
Bonjour Jean-François.
En France, les cinémas vont rouvrir leurs portes lundi prochain à partir du 22 juin, dans 10 jours plus précisément, et plus de 3 mois donc sans salle obscure. En raison du coronavirus, ça a évidemment donné quelques idées à certains. C'est ainsi qu'à Caen, en Normandie, le cinéma Le Luxe propose des séances de cinéma en drive-in depuis votre voiture, donc l'occasion de tester une tendance tout droit venue des États-Unis et garantie sans risque sanitaire. Écoutons le reportage que vous avez tourné, Fanny, pour raconter cette expérience.
Voilà, je vous laisse vous diriger vers mes collègues, ils nous font signe là-bas.
Il est 20h ce samedi au parc des expositions de Caen et les véhicules déjà arrivent au point de contrôle. Après vérification des billets, explication des principales consignes, ils sont installés sur le parking. Des silhouettes aux gilets jaunes fluo s'agitent. Objectif de la manœuvre, que chacun puisse voir l'écran convenablement. Elodie et Jérémy sont garés au premier rang et ils ont tout prévu.
On s'est fait des pop-corn maison pour pouvoir vraiment avoir toute l'expérience du cinéma comme on l'a en temps normal dans une salle.
Le cinéma en drive-in, c'est une première pour eux.
À la maison, voilà, on a regardé pas mal de séries et de films. Quand même, la sensation du grand écran, ça nous manquait un petit peu. C'est ça aussi qui nous a plu, c'est ce côté un petit peu à l'américaine qui s'était totalement perdu, enfin que nous, je pense, on a jamais trop connu.
Il faut dire que le cinéma en drive-in, c'est plutôt rare en France, mais Le Luxe n'en est pas à sa première expérience originale hors ses murs, avec le ciné-piscine, le pédalo-ciné ou encore le ciné-train. En ce qui concerne les projections pour le drive-in, les contraintes sont assez spécifiques, explique le projectionniste Arnaud Bérard, responsable technique du cinéma.
L'écran fait 100 mètres carrés, donc à l'installation de l'écran... Les gens qui ont fait un peu de voile peuvent se rendre compte que ça peut faire un bon spi. Après, il y a les risques inhérents fait qu'on démonte tous les soirs, hein, on réinstalle tous les débuts de soirée. Il y a surtout sur le drive-in la contrainte d'émettre avec un émetteur en plus du son qui est sur place, des contraintes logistiques importantes au niveau du parking. Non, tout n'est que contrainte en plus, mais bon, après, tout le monde en tire du plaisir quand même.
Au final, ce sont donc 150 véhicules qui peuvent participer à ces séances organisées 3 fois par semaine depuis le début du déconfinement, avec un programme éclectique et détaille Gauthier Labrusse, le directeur du cinéma.
On est sur une billetterie cinéma, une billetterie CNC, donc on a fait le choix de prendre des films qui étaient encore à l'affiche au 14 mars, qui n'avaient pas totalement fini leur carrière. C'est le cas du film de ce soir. La semaine prochaine, on aura du jeune public, du cinéma très pointu à RSC, et puis... un film plutôt grand public. Voilà.
Ce soir-là, le film en question s'appelle « 10 jours sans maman », un film humoristique avec Franck Dubosc. Ce n'est pas forcément pour ce genre de comédie que Guillaume et Océane ont l'habitude de se déplacer.
Plus pour les films d'horreur, parce que du coup, l'ambiance, elle est ouais. Différente que quand on regarde dans sa chambre tout seul.
Et pour un film classique, non, pas trop. C'est pour ça que je dis ça, en vrai, c'est un concept intéressant, parce que pour un film classique, maintenant...
Parce que moi, ce film-là, j'ai déjà vu, hein. C'est juste le concept.
C'est le concept qui est marrant.
Ils sont venus de Rouen, plus de 100 km avalés pour l'occasion. Le concept a su séduire aussi Flora et Blandine, pas forcément grandes cinéphiles, mais qui assistent à la projection presque en plein air.
On en a profité que la copine et la voiture décapotable. Donc.
Avec ce beau temps, en plus, on profite du temps qui est doux.
C'est vrai qu'on est plus petite série à la maison quand on se voit et c'est un peu dans le même délire là ce soir.
Au contraire, Clément va souvent au cinéma et il est pressé que les salles classiques ouvrent à nouveau.
Très pressé, j'ai 2 tickets qui attendent dans mon portefeuille.
En attendant, avec Anaël, ils se sont installés un vrai cocon et sont garés le coffre vers l'écran.
Je me suis dit c'est mieux qu'à travers le pare-brise, quoi, pouvoir se mettre dans le coffre. J'ai baissé les sièges, mis des coussins et puis un petit tapis de sol. Et voilà, comme ça on est encore mieux qu'au cinéma.
À 22h, la nuit tombe, quelques silhouettes de chauves-souris dansent devant l'écran. Le film commence, le son est diffusé par les autoradios. Devant la succession de gags, on s'étonne un peu de ne pas partager les éclats de rire avec ses voisins, mais Hélène et Christophe ressortent ravis.
On nous vante beaucoup aujourd'hui les technologies qui se mettent en place dans les salles de ciné pour nous faire vivre les expériences. Ça, je trouve que c'est une expérience.
Une expérience offerte également depuis cette semaine aux cyclistes et piétons installés sur des transats au premier rang.
Reportage de Fanny Bechner, séance de drive-in donc à Caen prévue jusqu'au 20 juin avant que le cinéma ne reprenne une activité plus classique dans ses murs. Et notez également qu'un premier festival de drive-in vient de voir le jour en France. Il fera étape ce mois-ci à Marseille et dans le nord de la France. Quant à moi, j'espère bien, Fanny, tester un jour le pédalociné. En plus, ça fait donc faire du sport. Indiscutablement, il était l'un des grands photoreporters des années 90 et du début du 21e siècle. Il est pourtant peu connu du grand public, même s'il a remporté 5 fois le prestigieux prix World Press et cofondé l'agence Nour. Un personnage à part qui a tutoyé la mort et brûlé sa vie par tous les bouts. Un homme de rage et de courage, un homme à femme aussi, et un superbe personnage de roman ou de bande dessinée avec son béret ou son bonnet noir qui l'aura promené en Tchétchénie, en Mauritanie, au Soudan, à Moscou, au Rwanda, en Afghanistan, au Liban, en Irak ou dans la Nouvelle-Orléans d'après l'ouragan Katrina, sans oublier le Berlin de la chute du mur. À chaque fois, Stanley Green était là avec son appareil photo pour témoigner des soubresauts du monde, souvent de la guerre et de ses horreurs. Une trajectoire hors norme et singulièrement romanesque, celle d'un homme libre, que nous raconte le scénariste Jean-David Morvan et le dessinateur Tristan Filler. Stanley Green, une vie à vif, est paru aux éditions Delcourt, à la première personne s'il vous plaît, et en intégrant dans le récit quelques-unes des photos de leurs personnages. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Stanley Green. Je suis mort le 19 mai 2017. La mort, toute ma vie, je m'en suis approché le plus près possible. Je l'ai frôlée, je l'ai narquée, elle me débecte, elle m'a reniflé, elle m'a hanté, elle me respecte. C'est en contemplant son œuvre que j'ai appris à raconter les histoires des autres. Ce n'est sûrement pas elle qui va m'empêcher de raconter la mienne. Puisque vous me demandez de résumer, je dirais que j'ai été, plus ou moins dans l'ordre, un morveux de Brooklyn, un gratteux, un Black Panther, un étudiant quepon, un octambule, un flatteur de top modèle, un homme à femme marié, un enjambeur de ruines, un immortaliseur de cadavres, un otage, un fils du vent, un mec qui a vu la lumière, voilà. Ça semble faire beaucoup, mais en 68 ans, ma foi, ça reste honnête. J'ai vécu sans rechigner toutes ces vies successives qui me tombaient dessus.
Voilà, ça c'est le texte que l'on peut lire de la page 12 à la page 14 de votre album, messieurs, et je souligne au passage le sens de la formule qui est le vôtre, hein, Jean-David Morvan, avec ces mots à la fois précis et très forts que vous mettez dans la bouche de vos personnages, notamment du narrateur. Et le narrateur, on l'a compris, hein, en entendant cet extrait, puisqu'il le dit lui-même, c'est donc un mort. Stanley Green est lui-même le narrateur de sa propre vie. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, Jean-David Morvan, de dire « je », de faire de cette biographie dessinée une autobiographie ?
Parce que c'était un peu l'idée de rentrer dans la tête de Stanley Green, de m'accaparer le personnage. Alors c'est un peu lui et un peu moi évidemment en même temps, parce qu'il a des questionnements qui sont aussi les miens et des formules qui sont les miennes. D'ailleurs, c'est très bien lu le texte, bravo. J'avais pas l'impression que c'était moi qui avais écrit ça, c'était pas mal du tout. Et donc, voilà, je pense qu'il y a la manière de parler de Stanley Green qu'on a eu la chance d'écouter dans une longue interview de presque 3 heures faite par Pep Bonnet pour l'agence Nour, et qui est vraiment formidable. Et puis il y a ce que moi je dois écrire en complément, ce qui n'existe pas, donc pour ça il faut que je me plonge dans sa manière de parler, dans ses pensées, et j'essaye d'être un petit peu Stanley Green, en tout cas de le rendre au lecteur tel quel.
Alors il est mort, hein, donc Stanley Green, mais il a bien vécu, oui. Et il a même eu plusieurs vies, hein, Jean-David Morvan, destin éminemment romanesque, et on se dit aussi dès les premières pages, un sacré personnage de BD. Comment est-ce que vous l'avez découvert, Stanley Green ?
Mais j'ai découvert par ses photos, donc c'est ça, de toute façon c'est le plus important de sa vie, mais c'est vraiment par là que j'ai découvert son travail, la puissance de son travail, on va dire. Et puis j'ai fait une collection de bandes dessinées avec Dupuis et Magnum Photo ensemble. Et le directeur la personne qui s'occupait de nous à l'époque chez Magnum a changé d'agence et s'est retrouvé chez nous. Et c'est là qu'on a parlé de Stanley Green, que j'adorais déjà, mais je connaissais pas tellement le personnage en lui-même. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. On s'est dit on ferait bien une BD sur lui, et je suis rentré dans le personnage. Voilà, ça s'est fait au fur et à mesure.
Alors pour faire une BD, il faut dessiner, évidemment. Ça fait. C'est votre tâche à vous, Tristan Filler. Comment se dessine le visage de Stanley Green ? Par quel détail est-ce que vous commencez ?
Par son grain de beauté.
Ah oui, donc c'est vraiment le petit détail.
Non, pour être en fait, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à dessiner son visage, et ça a même été une des étapes les plus dures de la bande dessinée.
Ah oui.
J'ai beaucoup de mal à récupérer ses traits, et surtout à ce que les gens qui l'ont connu même puissent le reconnaître.
Mais qu'est-ce qui est difficile dans le visage de Stanley Green ?
Bah, il a un visage très pur, très fin et finalement, enfin très doux. Et donc du coup, comme les traits de manière générale ont tendance parfois à durcir les visages ou en tout cas presque à les caricaturer, on peut se retrouver parfois avec un visage qui n'est plus du tout Stanley Green dès que voilà, on fait un nez un tout petit peu trop gros, des yeux peut-être parfois un tout petit peu trop alerte, enfin je sais pas, mais enfin, pas forcément alerte, mais trop gros aussi. Enfin, du coup, voilà, on peut très vite perdre Stanley Green. Si on rentre dans une caricature un peu trop extrême de ce qu'il était. Et donc finalement, ce qu'il a le plus caractérisé sur mes dessins, c'est finalement son grain de beauté.
Donc il y a le grain de beauté, il y a effectivement aussi les petites lunettes rondes, il y a la barbe, alors vous le dessinez souvent une cigarette au bec, et puis il y a le couvre-chef aussi, parfois bonnet, parfois béret, mais toujours noir.
Oui, bah là, ça, par contre, c'est presque un code couleur que j'ai utilisé tout au long de la BD pour rappeler ses origines punk. Et puis même, c'est quelque chose avec lequel on s'est mis d'accord avec Jean David et Louis-Antoine Dujardin, qui était notre éditeur et qui était voilà de rappeler en permanence le fait qu'il venait du coup de cette esthétique très punk et de le rappeler à travers ses vêtements, à travers ses gestures. Toute son esthétique et puis même la bande dessinée autour de lui, enfin les dessins que j'ai construits, c'est toujours de rappeler un peu ce côté déconstruit et bordélique du punk. Voilà.
Alors il y a un autre personnage qui lui aussi porte la barbe et que vous affublez d'un béret noir dans l'album, c'est un autre photographe d'ailleurs qui s'appelle Eugene Smith, et page 24 il y a une scène assez saisissante et drôle, en même temps j'imagine que vous êtes un petit peu amusé hein, Tristan Filler, c'est Eugene Smith que vous avez dessiné ou bien vous êtes inspiré d'un autre personnage historique?
Alors non, c'est Eugene Smith que j'ai dessiné et à peu près 3-4 jours après l'avoir fini, tout le monde m'a dit qu'il ressemblait à l'abbé Pierre.
Ah oui, mais alors là vous le dessinez, vous le dessinez vraiment avec le béret de l'abbé Pierre, les lunettes de l'abbé Pierre et avec cette lumière comme ça qui tombe du plafond comme si c'était la lumière divine quoi.
Et ben je suis très content parce que au final ça donne une scène encore plus drôle, mais pour être tout à fait honnête, ce n'était pas voulu. Je m'en suis rendu compte bien après l'avoir fait. Sur le moment, je l'ai fait de manière très frontale et puis au final ça trouve un sens beaucoup plus amusant.
Oui, en plus moi c'est vrai que j'ai beaucoup ri d'autant que Jean-David Morvan met dans le phylactère juste au-dessus de Stanley Green, putain, il y a Dieu dans le salon. Voilà ce qu'il dit dans cette scène, il est avec son pote Rex et il faut dire que tous les deux sont un peu imbibés d'alcool et de drogue. Alors Eugene Smith justement, Jean-David Morvan, c'est pas n'importe qui Eugene Smith, grand photographe lui aussi. Il est pas très sobre non plus hein. C'est même un peu leur vice d'ailleurs qui a fini par réunir les deux hommes.
Oui, c'était marrant. Enfin, quand j'ai entendu cette scène-là, c'était de la bouche de Stanley dans l'interview enregistrée. J'étais mort de rire, donc il fallait absolument mettre cette scène. Ça, on disait assez long. Puis c'est leur première rencontre. Alors Eugene Smith, je pensais pas, comme c'est une tellement grande icône du photoreportage, je sais pas si les gens le connaissent encore, mais il a travaillé dans les îles du Pacifique pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale.
Mais c'est une référence en matière de reportage de guerre.
Voilà, c'est un génie, on va dire, et puis il a fait un de ses reportages les plus importants, c'est Minamata, où il a fait des photos dans un village japonais dont l'eau était contaminée par le mercure d'une usine, et c'est grâce à son reportage documentaire qui est d'ailleurs devenu un livre, il y est resté pendant plusieurs mois, que les Japonais du village ont réussi à battre en procès une usine qui pourrissait l'eau depuis des mois et qui faisait des enfants hydrocéphales, etc. Bon, c'est une histoire incroyable. Donc c'est un mec aussi très engagé et tellement mythique, on va dire, que je pensais pas qu'on pouvait rigoler avec lui. Et finalement, on peut rigoler avec tout le monde. Donc c'était absolument génial qu'il le démystifie comme ça.
Alors vous parlez de Minamata et c'est vrai que ça résonne aussi avec une autre enquête photographique et journalistique qu'a menée cette fois-ci, non pas Eugene Smith, mais Stanley Green, c'est la fameuse enquête sur la catastrophe de Bhopal, hein, l'usine de Union Carbide en Inde en 1984. On peut dire qu'au-delà de cet exemple précis, on peut dire que Green s'est glissé dans le sillon tracé par Smith ?
Mais c'est l'impression que ça donne. Et autant Anton Eugene Smith avait l'air d'être évidemment moins punk et plus sage entre guillemets, mais dans la BD finalement, grâce à Stanley Green, on connaît un peu la véritable vie de Eugene Smith. Donc ils avaient l'air d'être quand même assez proches. Je pense que Smith avait un côté un peu plus chef, en tout cas un peu plus décideur, alors que Stanley Green vivait surtout pour lui et quand même pour quelques femmes. Mais je pense que les deux avaient quand même se sont reconnus à ce moment-là dans plein de domaines. $20 bill, I'm a Central Street. Meet me on the corner, boy, I don't leave. Man in a suit with a bow tie neck. Gonna buy a club with a big body chick. Standing on the porch of the Lido Hotel. Bruises in the lobby, love the way I sell. My feet, my back, my ass, my hips, my
Pimp et Frank Zappa, ambiance rock dans VMDN sur RFI avec Jean-David Morvan et Tristan Filaire pour leur album de BD Stanley Green, Une vie à vif, publié chez Delcourt. Stanley Green qui écoute justement Frank Zappa dans la voiture qui l'emmène sous la pluie vers Berlin et vers son destin aux côtés de son ami et collègue photographe Alain Dister, une chanson qui est l'occasion de rappeler, Jean-David Morvan, que la scène musicale californienne, notamment la contre-culture des années 60-70, eh bien Stanley Green la connaissait très bien.
Mais oui, c'est Eugene Smith dont on parlait tout à l'heure qui l'a envoyé à l'université puisque lui-même partait au Japon à l'université d'art et donc c'est là qu'il a découvert les groupes qui s'appelaient pas encore du punk mais qui étaient des performances artistiques finalement qui s'en rapprochaient. Donc il est né artistiquement dans ce milieu-là.
Oui, il a photographié les grandes soirées un peu déjantées de San Francisco dans les années 70. Il y a quelques-uns de ces clichés d'ailleurs dans le petit dossier qui termine l'album. Pourtant, il est pas californien, hein. C'est un vrai fils de New York.
Oui, il est de Brooklyn, ouais.
Famille afro-américaine, classe moyenne, fils d'un couple d'acteurs communistes, hein, c'est bien ça.
C'est à peu près ça, je
pense. Un petit peu en marge de la société, quoi.
Oui, mais en même temps, relève pas pauvre non plus. Donc, je pense que c'est eux qui l'ont vraiment ouvert à l'art, à tout ça quand il était gamin. C'est quelque chose dans lequel il a toujours baigné. Et puis après, effectivement, sur la côte ouest, il est rentré dans la contre-culture.
Donc ouvert à l'art et ouvert à la révolte.
Oui, bien sûr.
Il a milité contre la guerre du Vietnam, il est passé chez les Black Panthers. Alors là, ça nous ramène aussi un petit peu à l'actualité un peu chaude. Est-ce qu'il a souffert du racisme, Jean-David Morvan?
Il n'en parle pas beaucoup, mais je pense que il en parle quand il est dans les Black Panthers. Il dit que c'est un mouvement très paradoxal où en fait pour pouvoir acheter des petits déjeuners aux gamins noirs du quartier, en fait, ils vendaient de la drogue. et que donc ils donnaient à manger à des gamins et ils allaient vendre de la drogue à leurs grands frères. Donc c'est assez complexe et paradoxal. Donc oui, s'il y avait pas eu de racisme, ou en tout cas cette fin de ségrégation qui continue encore aujourd'hui, hélas, aux États-Unis, ils n'auraient pas eu besoin de faire tout ça. Donc oui, c'est quelque chose d'engagé quand même dans sa vie.
Mais comment est-ce qu'il est passé des backstage plutôt punk de San Francisco et des Black Panthers au photographe de mode parisien qu'il est ensuite devenu, photographier les cafés, photographier les mannequins? On a un peu l'impression d'un grand écart là, et pas seulement géographique.
Mais en fait, c'est un peu le parti pris que j'ai pris dans cette BD sans qu'il en ait parlé. Et j'espère que j'ai plus ou moins raison. Mais c'est vrai qu'il a vécu plusieurs vies comme si elles n'avaient pas tellement de rapport les unes avec les autres. C'est-à-dire, il est passé d'un endroit à l'autre. Il a suivi pas des opportunités, mais des moments comme ça. Il a décidé de faire quelque chose à un moment qui l'a totalement emmené ailleurs, où il a fait autre chose. Alors c'était toujours en rapport avec l'art. Et justement, je pense que le lien avec tout ça, ça reste l'art. C'est-à-dire que s'il a fait des photos dans les cafés, il le dit lui-même dans son livre Black Passport, c'est qu'il se prenait un peu pour Henri Cartier-Bresson. Donc à chaque fois, c'est sa connaissance en art qui l'a fait évoluer, je pense.
Alors il y a effectivement un certain nombre d'opportunités, comme vous dites, un certain nombre de moments précis de sa vie, et le moment fondateur, c'est sans doute celui-ci.
C'est incroyable, j'ai presque mal au cœur, je n'arrive pas à y croire.
Alors on ment.
Ça fait 3 ans et demi que j'attendais ce moment-là.
On va aller boire une bière à l'ouest et après, on retourne à la maison. Et ça maintenant, on pourra le faire quand on veut.
Une journée aussi belle que celle-ci ne devrait jamais finir. Voilà ce que chantait la foule le 9 novembre 89 au pied du mur de Berlin. Une ambiance concert dans cette archive de l'INA. Et c'est d'ailleurs à un concert que pense Stanley Green dans votre bande dessinée, Tristan Filaire et Jean-David Morvan. Il fait la comparaison quand il assiste donc avec son appareil photo à cet événement historique, historique pour le monde, historique aussi pour lui. C'est vraiment un événement fondateur de sa carrière de photo-reporter. Jean-David Morvan.
Mais oui, en fait, il s'est retrouvé là parce que son copain à Dister y allait, donc il lui a dit « Bon, allez, je viens avec toi », un peu comme il a finalement toujours fait. Et puis il s'est retrouvé là-bas et il y a eu une sorte de prise de conscience, je pense, en passant de l'autre côté du mur. Alors j'avais écrit dans le scénario à Tristan qu'il bascule à un moment, mm-hmm. et donc il a fait une image où il bascule, c'est bien fait, je savais pas tellement comment il pouvait la rendre, et il a fait au plus direct.
Il y a marqué « j'ai basculé » dans le cartouche mm-hmm. en bas du dessin, et c'est vrai, Tristan Filaire, que elle est assez renversante, cette planche page 44. Hein, comment vous avez eu l'idée déjà de le faire?
Très honnêtement, ça a été assez intuitif, je me suis juste dit... Encore une fois, j'étais très frontal. J'ai pas cherché à essayer de créer un effet extraordinaire. Je me suis juste dit, écoutez, on va le faire passer de l'autre côté du mur à tout point de vue, et puis même d'un point de vue graphique, on va le retourner, comme si le fait d'avoir traversé le mur changeait même la gravité sur laquelle il était. Voilà.
Oui, ce qui correspond à la fois à son destin et puis au destin du monde, hein, puisqu'il s'est aussi noté dans l'autre cartouche qui se trouve sur cette planche, en haut cette fois-ci, enfin en haut, en bas, on ne sait pas, puisque le personnage effectivement était en bas, donc c'est écrit, et en même temps que la planète entière, j'ai basculé. Et c'est donc par cet événement fondateur, hein, par la chute du mur de Berlin, que vous avez choisi de commencer votre récit, et vous dessinez Tristan Filaire, Stanley Green, avec donc son bonnet noir, ses lunettes ronde, sa clope au bec, ses bagouses et son grain de beauté, qui se prépare à shooter et qui prend cette photo absolument incroyable de ces deux personnages debout sur le mur de Berlin que l'on découvre à la page 9. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous décrire la photo?
Vous la décrire... en fait, très honnêtement, encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à le faire parce que je sais pas exactement, j'ai jamais vraiment su ce que je regardais. J'y vois une sorte de fraternisation entre ces soldats est-allemands et cette personne qui récupère du coup cette bouteille de champagne. Mais très honnêtement, encore aujourd'hui, à part cette fraternisation, j'ai encore un peu de mal à savoir ce qui s'y passe. Peut-être que vous avez...
Alors, je sais pas, mais on va demander à Jean-David Morvan quelle est sa propre lecture. Parce que c'est vraiment une photo étonnante. Et c'est vrai qu'on ne sait pas exactement qui sont ces deux personnages. On peut faire effectivement un certain nombre d'hypothèses. Et pourtant, c'est une photo qui a de quoi frapper les esprits.
Mais moi, c'est ce que j'aime bien dans la photo, c'est que finalement, on ne sait pas que c'est... Si on ne sait pas que c'est le mur de Berlin ce jour-là, on y voit une quelqu'un qui a l'air libre, parce que une fille avec un perfecto, un tutu de danse et une casquette de militaire, on va dire presque nazi, mais on voit bien que c'est du décalage vestimentaire, en train d'ouvrir une bouteille de champagne avec un soldat qui rigole. Avec derrière un grand bâtiment, bon, c'est le Reichstag, je pense. Donc je pense que c'est tout ça est universel d'une certaine manière. On peut appeler ça la paix. Voilà, c'est ce qu'on voit dans la photo. Alors évidemment, dans le contexte, c'est le mur de Berlin. C'est un soldat est-allemand qui était normalement censé garder le mur avec des fusils. Et les soldats, comme ils voyaient que ça a commencé à tourner mal, on va dire pour leur camp, ont décidé d'aller sur le mur, et ils ont déposé leurs armes, et franchement, ils ont l'air contents que ça arrive. On voit bien que les gens qui faisaient peur à tout le monde, parce que les gens n'osaient pas, le peuple, on va dire, n'osait pas traverser le mur parce que c'était trop risqué, soudain, par les changements des événements du monde, deviennent des garçons sympathiques qu'ils étaient peut-être dans la vraie vie. Et donc, c'est l'image même du militaire, de la dictature, ou en tout cas du mur qui change. Et donc, c'est ça qui est beau, finalement.
Voilà, des militaires éclaboussés par la bouteille de champagne, avec le bouchon qui saute. Ça, c'est la case suivante, parce que la photo dont on vient de parler, elle est vraiment pleinement intégrée au récit. On a un peu l'impression que c'est une case parmi d'autres. C'est l'une des grandes forces du récit. D'ailleurs, ces clichés, souvent extrêmement forts, qui rythment comme ça la bande dessinée, et qui sont pleinement intégrés à la narration, donc au dessin de Tristan Filaire. Alors le procédé, il n'est pas complètement nouveau. On l'a vu dans plusieurs albums, par exemple dans celui d'Emmanuel Guibert, le photographe, qui a été plusieurs fois primé. Mais c'est vrai que c'est un procédé qui fonctionne extrêmement bien. Déjà, Tristan Filaire, comment ces photos ont-elles été choisies pour les intégrer à votre récit? En fait, vous êtes parti des photos, vous avez dessiné les cases autour, ou bien vous avez d'abord dessiné et ensuite vous avez cherché les photos qui correspondaient à la narration?
Alors, ce qui se passe pour chaque page, c'est que Jean-David donc écrit un scénario page à page. Donc chaque page, il a prévu une photo et toute la narration qui va avec. Et moi, mon rôle, en fait, c'est de faire un pré-rendu des pages avec ces photos qu'on appelle le storyboard. Et donc du coup, je vais imaginer toute la mise en scène autour de la photo. Mais c'est vrai que du coup, quand il y a des photos dans les pages, ça m'oblige à créer une mise en page qui va être harmonieuse avec elle. Et c'est finalement ce qui était le plus dur dans cette BD, c'est de pas créer une rupture trop brutale entre les photos et les dessins.
Et donc introduire une forme de continuité graphique de façon à ce qu'il n'y ait pas de changement radical d'univers entre les deux.
Absolument. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai essayé d'utiliser le plus de noir possible dans les photos, parce que comme souvent les photos de Stanley sont vraiment très contrastées, c'est le moins qu'on puisse dire, je me suis senti obligé en tout cas d'utiliser un maximum de noir dans mes dessins.
Mais alors justement, poursuivons la logique, parce que c'est vrai que pas tous, mais la plupart des clichés de Stanley Green sont en noir et blanc. Vous n'avez pas été tenté de faire tout l'album en noir et blanc?
Alors si. Je crois que c'est Louis-Antoine, mon éditeur, qui m'a convaincu de mettre de la couleur. Et alors, ce qui est drôle, c'est que en plus, au début de la bande dessinée, on sent que j'ose pas beaucoup mettre de couleur. Et puis, plus ça avance, plus j'ose et plus la BD se colore. Et donc, vers la fin de sa vie, vraiment, la BD est assez colorée.
Et c'est vrai, et on a l'impression que vous avez travaillé tout un camaïeu de gris, d'abord, ensuite d'ocre, de marron, pour que l'œil du lecteur arrive progressivement à s'habituer aux photos ou à se déshabituer. Il y a vraiment toute une forme de gradation de camaïeu.
Mais je suis vraiment très content que ça se passe comme ça pour le lecteur, parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui s'est passé... au-delà de moi, c'est-à-dire que j'ai fait ces couleurs parce que je me sentais de plus en plus à l'aise de travailler sur les photos et à la fois en couleur avec ces photos. Et au final, apparemment, ça marche bien.
Ah bah, vous
mais c'est vrai que ça s'est fait au-delà de moi.
Et donc, c'est vous, Jean-David Morvan, qui avez choisi les photos. Quels sont les critères qui vous ont guidé? C'est d'abord la narration, de façon à justement pouvoir construire ce fameux storyboard, ou bien ce sont d'abord les photos qui ont induit la façon de raconter?
Non, c'est vrai, c'est vraiment la narration, c'est ce que disait Stanley que je voulais reprendre dans l'album. J'ai essayé de faire une narration qui soit pas linéaire, enfin j'ai pas essayé, je l'ai fait.
Oui.
Mais je voulais faire une narration qui était pas linéaire et qui était quelque chose d'organique, c'est-à-dire qu'on passe comme quand on raconte des histoires qui est en lien avec les idées. Avec ce qu'on dit, c'est-à-dire j'ai vécu ça. Bah d'ailleurs, 10 ans avant, j'avais déjà vécu un truc un peu similaire. Ou alors il parle de ses femmes qu'il a aimées ou qu'il admire, et puis on passe de l'une à l'autre comme ça. Donc j'ai essayé d'avoir quelque chose, comme je disais tout à l'heure, d'organique. Et les photos sont aussi là pour donner des repères forts de chaque époque. Donc elles se sont elles-mêmes imposées d'une certaine manière, puisque il fallait que je parle de la Tchétchénie, donc je devais prendre des photos de la Tchétchénie, donc ça se fait finalement tout seul. Il y a une sélection de photos de la Tchétchénie qu'on pouvait utiliser par exemple, et j'ai choisi à l'intérieur, donc c'était assez simple d'une certaine manière.
Et puis un moment dans l'album, en l'occurrence page 39 et page 39 et 40, c'est ce sont deux pages qui se trouvent tête bêche, hein, on va dire, de côté pile et côté face. Vous n'avez pas fait le choix d'une photo, mais vous avez fait le choix d'une planche contact. Pour quelle raison?
Parce que c'est joli, les planches contact, et puis on en voit plus beaucoup aujourd'hui.
Non, donc, pourquoi une seule?
Ah bah parce que après je sais plus si on en avait encore beaucoup à disposition, et puis c'était un moment où il est au mur de Berlin, donc il y a une sorte comme ça de patchwork de tout ce qu'il voit. Avant on parlait de concert, donc c'est la planche contact, c'est plein de moments juxtaposés qui se télescopent les uns les autres. Je trouvais que ça collait bien dans l'ambiance, ça donnait du rythme, c'était très chouette, donc voilà.
Nous en arrivons à la page 46 de l'album. On retrouve le narrateur Stanley Green qui nous parle sur 6 pages avec pour la radio la voix de notre réalisateur Michael Goncalves, des mots illustrés à chaque fois par un couple dessin photo.
J'ai crevé de peur en Mauritanie, d'admiration dans le Caucase, de chagrin au Soudan, d'amour à Paris, déchiqueté à Moscou, de désespoir au Rwanda, de pneumonie ou d'un truc dans le genre en Tchétchénie, par Balagrozny, de dégoût à Rostov-sur-le-Don, de tristesse en Afghanistan, de désir en Russie, d'essoufflement en Irak, noyé à la Nouvelle-Orléans, d'injustice au Liban, de tendresse au Darfour, et pour finir, dans l'ombre en Afghanistan.
Et dans l'ombre, effectivement, et même à l'ombre, hein, puisque Tristan Filaire, vous dessinez le photographe de presse dans un cachot avec la lumière qui traverse les barreaux. Et en fait, avec cette séquence, Jean-David Morvan, vous utilisez le même procédé narratif que celui dont on parlait tout à l'heure, hein. Vous annoncez les pages qui vont suivre par les mots et par cette série de 16 couples, cases dessins, cases photos. C'est un peu comme un générique, comme ça, en plein milieu de votre récit. En quoi ce procédé était-il, sinon nécessaire, du moins utile?
Il m'a semblé, c'est toujours une question de rythme, hein, on en parlait tout à l'heure, il m'a semblé que c'était le moment, arrivé dans l'histoire, mais aussi au-delà de l'histoire, pour le lecteur, de mettre un coup de boost, d'avoir un peu moins de mots, d'avoir plus de visuels, de changer la rythmique de lecture. Et c'est vrai que quand on le fait grâce à des photos, c'est un peu différent que quand on a que des dessins. Et justement, c'est une force parce que il y a différentes couleurs, différentes ambiances, différents endroits. Il y a des dames toutes nues, il y a des scènes de tir, il y a des gens qui courent sous les balles. Et donc du coup, ça crée un choc visuel, on va dire, qui permet d'accélérer un peu le rythme du pouls du lecteur, et c'était intéressant à faire à ce moment-là, à mon avis.
Et donc on est obligé, nous lecteurs, et enfin c'est une obligation qui est très très agréable en même temps, même si les photos parfois sont quand même très très dures, de comparer en quelque sorte, hein, la photo de Stanley Green et le dessin que Tristan Filaire a collé à chacune de ces photos. Alors là aussi, votre traitement est très différent hein, d'une case à une autre, Tristan Fieder. Il y a des dessins qui sont presque calqués sur les photos, avec quelques différences quand même, et puis il y a des dessins qui semblent au contraire prolonger la photo.
La plupart du temps, les dessins se sont avant tout articulés autour de la narration qu'on a prévue ensemble, Jean-David et moi. Ce qu'on avait prévu, c'était plutôt que de montrer de manière toujours très frontale les photos, c'est-à-dire Stanegrin photographie la photo qu'on a déjà vue, ce qui faisait parfois un peu redite. On s'est dit que parfois c'était plus intéressant de montrer l'envers du décor et comment est-ce qu'on en est arrivé à cette photo, puis comment, après cette photo, la vie de Stanegrin continue. Pour montrer qu'une photo, c'est au-delà de l'instantané, c'est avant tout un parcours, puis une continuation après la prise, quoi.
Oui, donc c'est toujours la narration qui commande votre trait.
Toujours, surtout dans cette BD, en tout cas. La narration, c'était vraiment le plus important parce que, au final, entre guillemets, la vedette de cette BD, c'est surtout les photos de Stanegrin. Et j'ai fait en sorte que mon dessin soit surtout le plus lisible et le plus clair pour la narration. C'est-à-dire que j'ai essayé, en tout cas, de faire en sorte qu'on comprenne au maximum les enjeux de sa vie et la narration que proposait Jean-David.
Oui, et c'est vrai que là, à travers ces quelques pages, on a vraiment un très bon résumé de tout ce que l'on va découvrir dans les pages suivantes. Et toutes les cases que vous avez dessinées, Tristan Fieder, on les retrouve donc un peu plus loin, cette fois-ci en situation, au cœur de votre récit, et parfois avec des cadrages aussi différent. Est-ce que vous avez l'impression de faire œuvre, puisque je parlais de cadrage, de réalisateur, de cinéaste, en mettant en scène un album comme celui-ci?
C'est marrant parce que j'en parlais avec un ami il n'y a pas si longtemps, et effectivement, je pense presque qu'on se trompe en disant que les auteurs qui dessinent sont des dessinateurs. On est presque plus des réalisateurs parce que on fait avant tout preuve de mise en scène, et le dessin est presque secondaire. Le dessin, c'est juste un support. Mais par contre, la manière dont on va articuler la narration que propose un scénariste, ou alors quand on est soi-même scénariste, mais voilà, c'est presque ça le plus intéressant. Et finalement, le dessin, après, c'est ce qui va venir sublimer ce qu'on a prévu en narration, en cadrage, en mise en scène. Et donc effectivement, en tout cas moi je me sens un peu comme un réalisateur, mais après je serais incapable de faire une réalisation de film.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a un vrai côté cinéma quand même dans l'album, et cinéma d'action en particulier. Par exemple, je pense à cette scène d'explosion qui se passe à Moscou, hein. Donc il y a cette petite case à la page 47 qui résonne, sans mauvais jeu de mots, avec le gros Baum de la page 56. Alors c'est la même scène, mais les positions des différents personnages ne sont pas du tout les mêmes, mais on reste dans les deux cas au cœur de cette explosion à Moscou. Comment est-ce que graphiquement, Tristan Fieder, on fait ressentir la force d'une explosion, une déflagration?
Alors moi je trouve que la méthode la plus simple, c'est de mettre des débris partout sur l'image. On couvre l'image de débris et très rapidement on va avoir l'impression d'être au cœur d'une explosion, parce que on a toujours l'impression que ce qui fait une explosion, c'est la déflagration et le feu, alors qu'en réalité, c'est la tonne de poussière et de débris que ça va soulever. Et à partir de là, on place des personnages à l'intérieur et tout de suite, on se sent, en tout cas, assez facilement au cœur d'une explosion.
Alors, cette explosion, elle s'est produite donc à Moscou, je le disais, en 1993, hein, lors de la tentative de putsch qui va permettre au futur président russe Boris Eltsin de s'illustrer. Là, Jean-David Morvan, Stanegrin a failli y passer.
Oui, je pense qu'il a failli y passer souvent, d'ailleurs, mais ils le disent pas beaucoup, les journalistes, donc les photographes.
Ils sont assez pudiques là-dessus.
Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est nous qui le racontons. Mais c'est vrai que là, c'était spécialement tendu parce que personne ne savait comment ça allait tourner dans ce bâtiment où les journalistes, quelques politiciens étaient enfermés. C'était une histoire assez incroyable, je pense.
Mais c'était un trompe-la-mort, Stanegrin. Il prenait de vrais risques.
Ah oui, il a pris énormément de risques, mais je pense qu'il s'en rendait compte qu'à posteriori, c'est-à-dire ce qui l'intéressait le plus, c'est d'être là au moment où quelque chose allait se passer, même si il savait pas que la Maison Blanche de Russie allait se faire bombarder par les chars, mais il sentait bien qu'il se passait quelque chose là à ce moment et il avait besoin d'y être. Et donc c'est ça qui engendre le risque. C'est pas le risque pour le risque, on va dire.
Parce que vous lui faites dire des mots très très forts. Hein. De toute façon, je cite donc Stanley Green tel que vous avez imaginé ou retranscrit, je sais pas d'ailleurs ses propos. De toute façon, quitte à se faire éparpiller, autant choisir les murs sur lesquels on va finir.
Ben je ne sais plus, parce que des fois je ne sais plus si c'est lui ou moi qui l'a dit, parce que j'oublie au fur et à mesure tout ça, parce que ça rentre dans un grand maelstrom dans ma tête et après je le retranscris, donc je ne sais plus si c'est moi ou si c'est lui, mais oui, je pense que c'est assez juste. Il avait aussi un côté un peu ironique comme ça qui me semble bien collé avec son caractère.
Oui, et un peu plus loin, on le voit dire, la certitude de crever m'a donné du courage, et un peu plus loin encore, la colère contre la haine, c'est mon combustible, elle me fait avancer, et cette colère, elle va notamment la faire avancer dans ses reportages de guerre, et surtout, plus encore qu'ailleurs, sans doute, en Tchétchénie. Alors là, c'est intéressant, parce qu'il est observateur, il raconte ce qui se passe à travers ces clichés. C'est donc un témoin, mais c'est aussi un acteur. Jean-David Morvan, il s'implique.
Oui, mais je pense qu'il y a dans le journaliste une sorte de déontologie de l'objectivité qui n'a jamais été vraiment, je pense, celle des journalistes sur le terrain ou des photoreporters. Il y a qu'à voir. On a sur la Seconde Guerre mondiale, on a peu de reportages objectifs avec des gens qui disent ah oui, mais finalement peut-être que la bataille de Stalingrad c'était peut-être bien du côté allemand, etc. Il n'y a pas de champ contre champ dans le reportage de guerre. Les gens ont un camp. Alors une fois de temps en temps, ça change, mais a priori, c'est Capa, on va dire, qui a fait l'histoire photographiée de la Seconde Guerre mondiale et d'autres. Mais il était évidemment du côté des Alliés. Donc, il est dans cette mouvance-là, dans la mouvance de Capa, totalement, Stanley Green. C'est-à-dire, il a des idées, et il essaye de les défendre. Et d'ailleurs, par rapport à la Tchétchénie, ce qui est complètement fou, c'est qu'il trouvait ça tellement important, la Tchétchénie, alors que les journaux eux-mêmes trouvaient que c'était moins important et lui donnaient pas d'argent pour s'y rendre et pour aller faire des reportages, qu'il payait lui-même son billet pour aller faire des photos en Tchétchénie parce qu'il trouvait ça vraiment important de montrer au monde des choses que le monde n'avait pas envie de voir. Et donc là, elle est là, la déontologie. C'est de dire, vous avez pas envie de le savoir, mais il faut quand même que vous le sachiez. Donc moi, je vais risquer ma vie pour vous ramener des images. C'est assez puissant.
Voilà. Et sur la Tchétchénie, il a publié un ouvrage intitulé Plaie à vif, hein, qui...
Oui, on s'est servi de ce titre pour...
Voilà. pour le titre, effectivement, de l'album. Alors, puisqu'on évoquait la Tchétchénie, Tristan Filler, difficile quand même de ne pas évoquer Asia. Qui est Asia? Pouvez-vous nous expliquer qui c'est?
La vie d'Asia est assez difficilement résumable, mais c'est du coup une combattante tchétchène qui est au début de la guerre une infirmière qui a une histoire familiale, on peut dire, pour le moins très compliquée. Le père, elle est mariée de force, comme ça se fait assez souvent malheureusement à ce moment-là dans ce pays, et elle finit par devenir une combattante extrêmement engagée dans la BD. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas dans la BD elle va même finir, on a l'impression, par l'idée un groupe de soldats. Donc voilà, on a cette femme et on a Stanley Green qui totalement fasciné par elle et qui va raconter son histoire.
Oui, donc une barbe à papa enrobée de fils barbelés. Hein. C'est comme ça que Jean-David Morvan nous la présente. Il y a beaucoup de rencontres féminines hein, dans votre récit, Jean-David Morvan. Elles sont nombreuses, hein, les femmes, elles sont souvent très fortes aussi. On peut dire que les femmes ont contribué à construire le personnage de Stanley Green?
En tout cas, c'est ce que lui dit, donc j'ai tendance à lui faire confiance. Et oui, je pense qu'il aimait les femmes fortes. Il aimait avoir du répondant en face de lui, et ça le rend intéressant parce qu'on a toujours, on a l'impression que c'est quand même un peu un mec comme ça lunaire, très très fort de caractère. et qu'aime bien dominer les choses, mais en vérité, il aimait bien les femmes qui lui tenaient tête et les gens qui lui tenaient tête, j'imagine. Donc il y a un côté comme ça, combattant. C'est un peu comme on est dans un bar, on se bat avec un mec et après on devient son copain en buvant une bière. Voilà, il y a un peu ça. Il y a ce côté-là de la confrontation permanente qui tire vers le haut. Si tant est que boire une bière et se bagarrer, ça tire vers le haut. Mais vous avez compris l'exemple.
Oui, absolument. Alors à la fin de l'album, il y a un dossier assez complet. Il y a la retranscription d'un entretien de Stanley Green avec un autre grand photographe, un Pep Bonnet, un de ses collègues de l'agence ouais. Nour, dont Stanley Green, vous le disiez tout à l'heure, est l'un des fondateurs. Alors on va écouter Stanley Green pour terminer cette émission. Extrait d'une interview qu'il a donnée pour Nikon France en 2013. Réponse à la question suivante. Comment reconnaît-il une bonne photo?
When I see a photograph that shows brains, some guts or some, you know, like.
Quand je vois une photo avec de l'esprit, des tripes, du courage, pas juste clic-clac Kodak et de l'humanité. Il faut ces trois éléments, mais en particulier l'humanité. C'est important car de nombreux photographes veulent être des artistes.
I think it's very important to also be concerned about humanity.
Et il est donc important de se sentir concerné par la condition humaine. On fait partie du même monde, on a besoin des autres. Si une personne va mal, cela ne veut pas dire que vous devez en faire de l'art et en tirer du profit. Nous ne pouvons pas être des marchands de misère, voilà.
Et l'humanité, hein, on entend le mot dans la bouche de Stanley Green, on la sent vraiment dans la plupart de ces photos qui parsèment votre récit. Je voudrais qu'on termine d'ailleurs, messieurs, je voudrais que chacun d'entre vous évoque la photo qui l'a peut-être le plus touché, la première photo à laquelle vous pensez lorsque vous entendez le nom de Stanley Green. Tristan Filaire.
Moi, c'est la photo de Asia où on la voit tenir son arme. Qui est une photo qu'on voit au moment où on fait un petit récap de tous les photoreportages qu'il va faire. Et il y a cette photo au moment qui apparaît. Ou alors peut-être qu'il n'apparaît plus, je ne sais plus très bien. Mais en tout cas, voilà, il y a une photo d'Asia où on la voit tenir son arme à feu, qui est, je crois, une Kalachnikov. Et encore aujourd'hui, j'y pense de temps en temps. Donc vraiment, elle m'a beaucoup touché.
Et vous, Jean-David Morvan?
Moi, c'est une photo en Tchétchénie avec un monsieur qui est allongé par terre avec un mort derrière et qui essaye de ramper vers Stanley Green qui prend la photo. Pour moi, elle est forte parce que d'abord l'image en elle-même, la compo est forte, mais ça passe au second plan. Il y a le regard du monsieur qui a l'air de souffrir et je trouve que ça résume bien le photoreportage. Souvent, les gens ils se disent mais pourquoi Stanley Green il a pas aidé le monsieur, mais si ça se trouve, il l'a aidé une seconde après. Prendre une photo, ça va très vite, donc on ne sait pas s'il l'a aidé ou pas. Et j'imagine que oui, vu son caractère. Et puis peut-être aussi qu'il peut pas l'aider tout de suite. C'est peut-être qu'il est derrière un muret et qu'il y a un sniper et que s'il passe la tête, il va se faire tuer. Donc tout ça, c'est le photoreportage, c'est vivre l'instant présent avec les risques et aussi le risque d'être jugé par des gens qui vont se dire quitte à aller là-bas, autant aider les gens. Mais en fait, aider les gens, c'est aussi leur montrer ce qui se passe pour que la communauté internationale s'émeuve, on va dire, parce que on va dire tant mieux ou hélas, c'est l'émotion qui fait avancer les choses et puisse faire changer les situations dans les pays où Stanley allait et tous les photoreporters.
Voilà, Stanley Green qui dit dans l'album, je suis le casse-couille qui vient bousculer les gens dans leur petit confort en leur mettant sous les yeux ce qu'ils évitent de regarder. Voilà, je crois que c'est une bonne conclusion à cette émission. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
David Morvan et Tristan Filaire. Stanley Green, une vie à vivre chez Delcourt. Et je signale aussi l'apparition la semaine dernière chez Air Libre, cette fois aux éditions Dupuis, de l'album Mohamed Ali Kinshasa 1974 que vous co-signez Jean-David Morvan. Album qui raconte le fameux combat Mohamed Ali George Foreman avec les dessins de Raphaël Ortiz et les clichés d'un autre très grand nom de la photo, Abbas, qu'on a eu la chance de recevoir dans cette émission. Merci beaucoup. Dans un
Merci
instant, l'info sur RFI, on se retrouve demain avec l'écrivain Guillaume Musso. On va changer complètement d'univers et vous m'en direz des nouvelles. We'll be right back.
RFI.